Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.
Bonjour à toutes et à tous. La semaine prochaine, marhaba pour la 18e édition du forum de Rage qui est consacré pour l'accompagnement du mouvement populaire en Algérie. Donc, cette fois-ci-là, nous avons l'honneur de recevoir avec nous M. Majid Bensheikh. Majid Bensheikh, Ghani Anil Tarif, c'est un ancien doyen de la faculté de Dawa d'Alger. Il a coordonné en Algérie la création de l'Amnesty internationale dont il est le premier président. Donc, il va intervenir sur la question, qui va intervenir sur des éléments d'analyse sur le mouvement populaire en Algérie. Donc, juste avant de passer la parole pour notre camarade, juste je vous en rappelle, parce que ce matin, on s'est réveillé vraiment sur une triste nouvelle, c'était le décès de notre ami et camarade Achor Idir. Achor Idir, il est très connu, c'est le secrétaire général du CLA, un syndicaliste, un militant politique. Il a consacré toute sa vie pour le combat, pour la lutte, pour la dignité et la démocratie en Algérie. Vraiment, c'est triste. Ndrahmo ala akh Achor Idir, li narfo bzaf, ma kanch li yaarf Achor Idir, ma yhbouch parce qu'il est très connu par sa sincérité, par son honnêteté aussi. C'est vraiment une grande perte pour l'Algérie. Et à l'occasion, je vous invite à observer une minute de silence à la mémoire de notre camarade Achor Idir. Choukran. Donc voilà, je passe directement la parole pour M. Majid Bensheikh.
Salam alaikum. C'est en effet vraiment une triste nouvelle parce que c'est un grand syndicat et un grand syndicaliste qui sont touchés. Donc le monde du travail est également touché, nous tous. Alors, le Rassemblement Action Jeunesse, ses dirigeants, Sifr Saoui notamment, ont demandé d'essayer de donner quelques éléments d'analyse sur la situation actuelle et sur le mouvement populaire qui est à l'origine de cette éclosion des revendications en vue de dégager, comme le dit le peuple, en vue de dégager le système. Essayer de donner quelques éléments de réflexion qui permettent d'essayer de voir clair, ou plus clair, dans des situations qui sont très difficiles. Évidemment, c'est toujours très difficile de donner des éléments d'analyse quand les activités, l'action est en cours, pour pouvoir examiner exactement comment cela se passe, comment cela est apparu, quels sont les rapports de force en présence, de quoi le lendemain sera fait. En fait, les politologues, les juristes, les sociologues, les spécialistes de l'analyse de ces questions ont besoin de temps. C'est parfois plusieurs années, une fois que les choses se tassent, que l'on voit clair, que l'on procède généralement à des analyses. Les analyses à chaud sont pratiquement impossibles. C'est pourquoi personne n'a prévu exactement comment que ce mouvement allait apparaître et rassembler l'immense majorité du peuple algérien à travers l'ensemble du territoire national, comme cela se passe. Alors, il reste tout de même qu'il y a un certain nombre de choses qui apparaissent, qui sont suffisamment nettes pour permettre de donner quelques éléments d'appréciation. Et d'abord, on va essayer de voir comment si on peut déjà chercher la nature du mouvement qui nous a du mouvement populaire qui a fait que cette situation ait lieu. Mais ce sera juste quelques brèves remarques sur cette question. Comment qualifier ce mouvement? Est-ce qu'on va l'appeler mouvement populaire? Est-ce que, comme certains disent à la suite de cela, c'est un hirak, en suivant ainsi ce qui s'est passé dans le Rif au Maroc? Ou bien est-ce que, comme je le pense, on peut encore voir plus clair en qualifiant ce mouvement de soulèvement, je vais dire de soulèvement populaire, en partant du mot, par exemple, en tamazight, ke, thankra, soulèvement, se mettre debout, ou en arabe, qum, lève-toi, la même chose, qiyam, soulèvement. Est-ce que ça apporte quelque chose de plus clair, même si la définition, l'appellation de ce qui se passe du côté des populations par les termes mouvement populaire ou hirak est très intéressant. Cela ne signifie pas, si je cherche autre chose, ça ne signifie pas que je rejette le mot hirak. J'essaye de voir si on peut trouver quelque chose d'encore plus clair et significatif. Ensuite, on accuse ce mouvement populaire de ne pas avoir de programme, de n'avoir que des slogans. J'essaierai de démontrer que ces slogans sont en réalité un programme extrêmement riche qui pourra difficilement être réalisé en quelques mois. Probablement même qu'il faudra beaucoup plus de temps pour réaliser l'ensemble des thèmes, des directions politiques qui sont engagées par les différents slogans adoptés par ce mouvement. Mais pour cela, évidemment, il faut connaître le système, parce que pour dégager un système, il faut le connaître. Il faut d'abord savoir de quoi il est fait, ce système. Et vous allez voir que justement, si on connaît les éléments principaux, simplement, du système, le mot d'ordre, système dégage, est un immense programme très riche. Évidemment, l'autre aspect qu'on sera amené à envisager au moins un peu, en tout cas au moins poser des questions déjà, c'est ce qui est déjà reproché à ce mouvement, c'est de ne pas avoir une direction personnifiée par des personnes physiques. Et cela ensuite conduit à diverses questions qui peuvent être de nature à constituer des freins ou des blocages à une progression ou à une continuité du mouvement. Vous n'avez personne avec qui négocier, par exemple, puisque vous n'avez pas une direction. Et vous allez voir très vite, dans probablement les jours qui viennent, c'est un argument qui sera utilisé parfois à juste titre, puisqu'effectivement il n'y a pas de direction, mais parfois aussi comme une manœuvre, comme une manipulation pour ne pas négocier réellement, pour rester toujours dans l'octroi de solutions par le pouvoir qui reste en place, c'est-à-dire aujourd'hui plus clairement qu'avant par le commandement militaire. Voilà donc un peu la charpente de ce que je voudrais aborder avec vous très rapidement pour certains points, un peu plus longuement lorsqu'il s'agit du programme, parce que c'est l'aspect le plus important pour un mouvement qui revendique le dégagement du système. D'abord, quelques mots sur ce que je disais. Est-ce qu'on peut qualifier déjà le mouvement? Je disais que le hirak ou le mouvement populaire est intéressant, mais il me semble qu'on peut aller encore plus en avant. Si on considère qu'aujourd'hui, ce qui est revendiqué avant tout, c'est la fin de la soumission des populations individus et collectifs par un système politique, cela veut dire que déjà les populations se lèvent, elles veulent soulever le couvercle qui était sur eux, et par conséquent, déjà, rien que à regarder ce qui s'est passé déjà, pour qu'apparaisse un mouvement, on peut penser au soulèvement. Ce sont des gens, plus que des gens, c'est un peuple, parce que cela touche l'ensemble du territoire et de très larges catégories sociales, c'est un peuple qui s'est soulevé. Et en effet, il se considérait en tous les cas, et je crois à juste titre, soumis par un système, un ensemble de mécanismes juridiques, constitution, loi, règlement, et de pratiques politiques franches, c'est-à-dire assumées, ou moins franches, par la manipulation. Il était donc soumis par une série de lois et de mécanismes issus de la pratique politique, sociale de contrôle social de la politique, c'est-à-dire le DRS. S'il veut en finir avec cela, il s'agit bien d'un soulèvement, il se lève. L'autre aspect de cette manière de définir ce mouvement est également intéressant parce que lorsqu'on se soulève, on se met debout. On cherche donc une dignité. Or, l'un des mots d'ordre les plus utilisés, au début comme par la suite, c'est la fin de la hogra, qui est un déni de dignité, et par conséquent, la volonté à la fois collective et individuelle. J'insiste sur les deux, parce que il y a une revendication de citoyenneté qui est incluse dans ce soulèvement. Eh bien, s'il en est ainsi, s'il y a une recherche de dignité, c'est bien d'un soulèvement qu'il s'agit, et non pas seulement d'un mouvement, c'est-à-dire bouger. Mouvement, hérak, c'est d'abord bouger. C'est bien de bouger, c'est-à-dire qu'on s'active, ça veut dire qu'on vit. Et c'est pour cela que je ne rejette pas le terme, cette manière de voir le mouvement. Mais c'est mieux si on considère que l'on se soulève, parce qu'en se soulevant, on se met debout. En se mettant debout, c'est l'histoire de l'être humain qui est en jeu. L'être humain, il s'est mis debout en devenant humain. Ce n'est plus un animal. Et par conséquent, on s'achemine vers l'humanité, vers la dignité, je l'ai dit, vers la volonté de l'être humain d'avoir une vision, de ne pas se contenter de la condition animale, rien que là, ce qui est autour, mais de voir loin, d'avoir déjà un plan. Et c'est cela aussi, dès les débuts de l'humanité, c'est cela aussi, l'être humain. Et par conséquent, en se soulevant, on lève la tête, on regarde droit, on a une vision, on est capable d'avoir un programme et de planifier soi-même son avenir. Et cela est évidemment intéressant si d'emblée on caractérise notre mouvement comme des gens capables de planifier, d'être donc des citoyens en tant qu'individus et d'avoir une volonté aussi collective et une capacité d'organisation. L'idée de soulèvement va dans cette direction. Et en même temps, si on qualifie notre mouvement ainsi, les responsables du mouvement ont des responsabilités. Ils ont des comptes à rendre à ceux qu'ils ont soulevés. Et pour en terminer avec le système, rendre des comptes est un élément essentiel. Continuer à préserver la dignité des gens, c'est aussi une capacité de contrôler les tenants de notre propre mouvement. Ce n'est pas s'en remettre aux tenants de notre mouvement, mais c'est les diriger nous-mêmes. C'est très important. Parce que cela veut dire qu'on ne rééditera pas tout ce qui s'est passé dans l'histoire déjà lointaine de l'Algérie, où on demande au peuple de dire une chose et puis c'est nous qui savons. Le peuple ne sait pas. Non, le peuple sait, en se soulevant, il avait l'idée d'une direction à suivre, d'une préservation de la dignité, il s'est placé à la base même des revendications des droits de l'homme. La dignité, c'est la base fondamentale des revendications en matière de droits de l'homme. Et sur ce point, je sais un peu de quoi je parle. Voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai pensé qu'il était intéressant de promouvoir de plus en plus l'idée de qualifier ce mouvement de soulèvement populaire. Lorsqu'on se soulève, d'emblée, on indique contre qui on se soulève. On se soulève contre celui qui a mis le couvercle, c'est-à-dire évidemment le système. Et sur ce point, c'est bien de cela qu'il s'est agi très vite. Alors, je vois souvent dans la presse que on indique qu'au départ, le soulèvement concernait était dirigé surtout contre la personne de Bouteflika, contre le cinquième mandat. C'est vrai, le cinquième mandat est en quelque sorte la goutte qui a fait déborder le vase. Mais d'emblée, on a dit aussi, même s'il y avait beaucoup de pancartes et de slogans contre le cinquième mandat, on a dit aussi, il y avait aussi des références contre le système. Même si on minimise cette référence au système dès le départ, je considère que par la suite, le mouvement, le contenu du mouvement ne peut pas être analysé ensuite comme s'il n'y a eu qu'un vendredi 22 février. Il y a eu aussi beaucoup d'autres vendredis, et en plus des vendredis, il y a eu aussi beaucoup de manifestations sectorielles. Dans l'ensemble, on peut quand même dire qu'au cœur des revendications, il y a la volonté de dégager le système. C'est donc, au plan politique, le point fondamental. La fin du système politique qui a régné jusque-là. Alors, je vois aussi dans la presse, il faut le préciser tout de suite, qu'on entend dégager le système Bouteflika. C'est faux. Peut-être y a-t-il ici ou là, une ou deux pancartes indiquant. Moi, j'ai bien regardé tous les vendredis, et de toute façon, il y a des vidéos, même on ne peut pas tout voir dans le coin où on est, dans une rue où il y a des milliers de gens, mais ensuite, on peut étudier, celui qui veut analyser a l'obligation d'étudier ce qui se passe ici et là, et utiliser tous les moyens qui permettent de faire cette étude. On voit bien que le système dégage est vraiment le mot d'ordre qui est le plus généralement repris. Il forme l'ossature de ce soulèvement. C'est donc à partir de là qu'il faut voir quel est le programme. Est-ce que la volonté de dégager le système nous permet de déduire un programme politique? Moi, je pense que oui, et vous allez voir pourquoi. Ensuite, évidemment, on dira quelques mots, puis il y a des questions, si je finis pas, si je suis trop long sur ce programme du soulèvement, on verra dans les questions et débats ce qui reste. Je voudrais surtout m'attacher à cet aspect-là du programme, de l'existence d'un programme sur le monde. Surtout à l'heure présente, c'est que dans les jours qui viennent, il est probable que ceux qui veulent aller très vite dans les solutions entre guillemets à apporter à ce qu'ils appellent la crise, au moins il n'y a pas de crise au niveau du peuple, il y a une crise au niveau du système politique. Pour le peuple, c'est au contraire des fleurs qui sont en train de s'épanouir. C'est une éclosion des aspirations populaires algériennes. Alors, je ne vois pas comment, quand je rencontre des gens et que je leur pose des questions sur ce soulèvement, ils me disent qu'ils ont un baume au cœur, comme je le dis moi-même, que ça ouvre les portes de l'espoir, et qu'en même temps, je dirais, en analysant, c'est la crise. Vu du côté des populations, ce n'est pas une crise. C'est au contraire une ouverture de l'espace politique, économique, social. C'est le dialogue qui est ainsi ouvert entre des gens qui parfois ne se connaissent même pas. C'est une floraison d'idées qui apparaissent. C'est une capacité invraisemblable à analyser la scène politique. Mieux que moi, mieux que les professeurs de droit qui ont écrit qu'il faut appliquer l'article 102, imaginez, lorsque sur des pancartes, des non-juristes disent article 102, sans eux, autrement dit, sans Ben Salah, c'est une réponse directe à ce qu'ils ont écrit. Ma'alich, on va les accepter. Ben Salah, c'est pour 3 mois, puis tout, en plus, il n'est pas très fort. Donc, non, c'est pas comme ça que se pose. Le peuple a répondu, il a dit sans eux. Imagine, moi, j'ai pourtant enseigné il y a très longtemps le droit constitutionnel. Je n'ai pas pensé à article 7 plus 102 égale 100, S-A-N-G, du 100, de, je dis 109. C'est quoi? C'est-à-dire sans eux. Ça correspond. C'est-à-dire sans le Sénat. Parce que le Sénat, pour le peuple, je crois qu'il a raison, c'est pourri. C'est l'ancien système. Et donc, on est, si on veut, si on ne veut pas tourner le dos aux demandes populaires, et le chef d'état-major dit, j'épouse les demandes populaires. Le commandement militaire maintenant dit, j'épouse les revendications du peuple. Si on ne veut pas tourner le dos aux recommandations du peuple, il a déjà répondu, vendredi dernier, 109, sans eux, c'est-à-dire sans les principales institutions existantes mises en place dans le cadre du système que veut dégager le peuple. Autrement dit, le programme, rien qu'à partir de là déjà, le programme, à partir de ces pancartes, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Conseil constitutionnel. Et pourquoi ? Imaginez, même lorsque le commandement militaire a demandé d'appliquer l'article 102, ce qui passe par la réunion du Conseil constitutionnel, le président du Conseil constitutionnel n'a pas réuni le Conseil constitutionnel. Et donc, il y a là une manifestation délibérée d'une institution de tourner le dos aux demandes de la population clairement formulées. Dans ces cas, il est en infraction directe avec l'article 7 qui prône la souveraineté populaire. Autrement dit, en réalité, le commandement militaire n'a pas tiré les conclusions de la signification profonde de l'article 7 qui dit « respect de la souveraineté populaire ». Elle s'est exprimée plusieurs fois. Ce sont de véritables référendums, entre guillemets, qui ont lieu de manière sectorielle en semaine et de manière générale, nationale, sur l'ensemble du territoire les vendredis. Et ce n'est pas appliqué. Le Conseil constitutionnel a eu une position qui est une violation de l'aspiration des populations à une libération de l'espace politique. Le Conseil constitutionnel, en refusant de réunir leurs propres institutions, parce qu'il aurait pu se réunir lui-même et ensuite être en contact avec la présidence du Sénat. Ils n'ont pas fait. Ils ont attendu que ça aille beaucoup plus loin, presque au clash entre le commandement militaire et cette institution. Vous voyez combien les institutions de ce type, loin de jouer un rôle capable de nous sortir de ce qu'ils appellent la crise, et capable d'aller vers la satisfaction des revendications politiques, sont au contraire un frein. Et de frein en frein, c'est là où on peut craindre le pire. Parce qu'à force de tourner le dos aux aspirations des populations réitérées tout au long des semaines, vous ouvrez la voie à des actions qui peuvent être, nous ne les souhaitons pas, mais qui peuvent être dommageables à la réalisation des aspirations des populations. Je disais donc aussi, vous voyez donc déjà, on a un programme important. Il faut dissoudre les institutions du système qui sont désormais un frein clair pour la réalisation du début. Parce que la dissolution de l'Assemblée nationale qui casse les portes, qui ferme les trucs en cadenas, qui font des coups d'État, ça ne peut pas ne pas se faire si on veut tenir compte de ce qui est exprimé par les populations. C'est donc vraiment le premier pas de la première étape que de dissoudre l'Assemblée nationale de ce type. Encore plus un Sénat dans lequel un tiers des membres est nommé par le chef de l'État, c'est-à-dire en violation flagrante du béaba, des choses les plus élémentaires de la démocratie. Nommer le président de la République qui nomme un tiers des membres d'un Sénat. C'est tourner le dos directement à l'idée même de démocratie, d'élection libre, etc. Et vous voulez que ce soit cette institution qui préside à une ouverture politique en vue d'un système démocratique. Personne ne peut croire ça. Et donc, nous aboutissons ainsi très clairement à la nécessité de dissoudre le Sénat. Même chose pour les deux autres institutions. Alors, évidemment, on dira, ah, mais c'est le vide politique. Quel vide? Il n'y a pas de vide. Là, aujourd'hui, vous voyez l'Assemblée faire quoi que ce soit, se réunir, décider, faire une motion, rien. Il n'y a rien. C'est du vide. Ça a toujours été du vide. Jamais il n'y a d'initiative de loi de la part de l'Assemblée. Jamais ils n'ont élevé la voix pour une enquête indépendante et crédible. La majorité de l'Assemblée était favorable à un cinquième mandat. Maintenant qu'il n'y a plus de cinquième mandat, maintenant qu'il n'y a plus de président, ils disent tous qu'ils avaient averti avant, même l'ancien Premier ministre demandait la démission du chef de l'État qu'il servait quelques jours avant. Voilà donc la situation. Il n'y a pas de voix crédible à partir de ces hommes-là et de ces institutions. C'est déjà un programme à très court terme qui devrait pouvoir être engagé si on veut vraiment réfléchir, mettre les premières conditions en place favorables à la fin de la crise des institutions. Ce système, quand le peuple dit « système dégage », je disais c'est déjà un programme politique. Pourquoi? Le système politique algérien, déjà un peu avant, mais en tout cas très clairement à partir de l'indépendance du pays, est un système politique qui s'est construit par un coup de force. Le premier coup de force, c'est l'entrée de l'armée des frontières qui a tué quand même un certain nombre de moudjahidines dans certaines wilayas du pays. Chacun sait que le premier président de la République a été choisi dans ce cadre-là et les suivants n'ont pas dérogé à la règle. Autrement dit, lorsque la population dit « système dégage », elle dit « nous ne voulons pas qu'un pouvoir d'État, qu'un pouvoir politique soit institué en recourant à la force ». Si on ne recourt pas à la force, cela veut dire qu'il faut laisser libre choix au peuple algérien de choisir ses représentants et son système politique, c'est-à-dire les règles relatives à l'organisation, autrement dit, se prononcer sur sa propre constitution. Cela veut dire en même temps que ce n'est pas le commandement militaire, contrairement à tout l'espoir, sans aucune exception, de Ben Bella jusqu'à notre période actuelle. Aucun chef d'État n'a été intronisé, même si on les lit par la suite, n'a été intronisé sans ce qu'ils appellent un consensus, sous-entendu un consensus au sein du commandement militaire. En disant système dégage, le peuple dit il faut mettre fin à cette manière de désigner le chef de l'État. C'est un immense programme que cela. Et c'est un programme extrêmement important. Pourquoi? Parce que dans les systèmes politiques qui ont vu le jour en Algérie, qui ont été appliqués, Le président de la République, le chef de l'État, est une pièce maîtresse du système. Cela ne veut pas dire que c'est lui qui est le véritable chef ou qui est le seul chef, mais c'est une pièce maîtresse du système. Un jour, quelqu'un qui a été chef du gouvernement me disait « Il faut que le chef de l'État apparaisse comme le véritable chef, même s'il n'est pas en réalité le véritable chef. » C'est cela le système, parce qu'il est la devanture du système. C'est grâce à cela que le commandement militaire peut jouer aussi un rôle important dans la conduite beaucoup plus générale, plus stratégique du système politique. En disant « système dégage », c'est à ce jeu, c'est ce programme-là mettant fin à ces règles que le peuple indique. C'est donc un programme, on ne le réalise pas, ce type de programme, en quelques semaines. C'est un immense programme. Il existe ensuite que des équipes, mais ce n'est pas là la question de l'heure. Il existe ensuite que des équipes travaillent. Comment on fait ? Quelles mesures prendre pour qu'il n'en soit plus ainsi ? Quel mécanisme adopter ? Quel groupe réunir ? Quelles compétences solliciter et faire travailler ? Ça, c'est le rôle de ceux qui auront à conduire une rénovation de la construction de l'État. Même si des négociations sont ouvertes entre le commandement militaire et ceux qui sont les plus en vue dans ce soulèvement, eh bien, ce n'est pas comme ça, je lui dis, ah bon, vous enlevez ça, vous faites ça. Non, les négociations, ça se passe autrement. Chacun avance les mesures qu'il préconise, parfois de manière très claire, parfois sciemment moins clairement, parce que c'est ainsi que se passent les négociations de ce type. C'est-à-dire, il ne faut pas venir tout mettre sur la table, c'est au fur et à mesure que l'on négocie, que l'on discute, que s'organisent les contacts, si on ne veut pas négocier vraiment au départ, que les choses s'avancent. Il faut évidemment un minimum d'expérience politique, un minimum de connaissances, un minimum de sang-froid, un minimum de volonté, de clarté dans les idées. Je ne doute pas que ceux qui prennent une grande part dans cette organisation pacifique des manifestations sur l'ensemble du territoire. Je ne sais pas, moi, quand j'étais étudiant, j'essayais d'animer des manifestations, par exemple, ou même plus tard, en essayant de mobiliser des gens. Sortir déjà 100, 200, 300 personnes dans la rue, c'est tout un travail. Sortir des millions dans la rue, c'est encore plus difficile. Et pourtant, ça se fait. Dans le calme, dans la paix, avec des mots d'ordre riches d'idées, susceptible de là de dégager un programme. Eh bien, je ne doute pas que si le commandement militaire, qui maintenant c'est clair, moi avant je disais tout seul, peut-être un peu, encore que je n'étais pas tout seul, je parlais du commandement militaire qui est vraiment la colonne vertébrale du système politique algérien. Maintenant c'est clair, il n'y a pas de chef d'État actuellement. C'est quand même pas Bédoui qui est l'inspirateur et le chef politique du système politique aujourd'hui. C'est des choses très claires. Donc, on voit bien où est, dans quel camp est la balle pour pouvoir initier des sorties de crise authentiques. Et par conséquent, où est la balle pour aller initier des contacts avec des gens qui organisent ce genre de manifestations ou qui sont d'accord avec eux, qui les inspirent. Il y a un tas de noms qui sont apparus. Et donc, ce n'est pas en réalité une difficulté, sauf si on ne veut pas prendre des initiatives politiques en vue d'aller vers la réalisation de ce programme que j'indique comme contenu déjà dans les slogans que j'ai cités. Si on veut libérer l'espace politique, Il y a une caractéristique du système politique algérien qu'il faut tout de suite avoir en vue. Qui arrivait à contrôler les élections? Qui contrôlait les associations? Qui faisait en sorte qu'on ne donne pas les autorisations? Qu'on contourne parfois même les lois ou les principes qui sont inclus dans la Constitution pour que l'on garde la chape de plomb sur les associations, les syndicats autonomes, certains partis politiques, tout au moins ceux qui n'ont pas été créés par le système lui-même. C'était évidemment l'organisme chargé du contrôle politique de la société. Alors avant, on disait la sécurité militaire, c'est-à-dire l'organe qui, au niveau du commandement militaire, a la capacité d'indiquer les lignes politiques, les actions politiques en faveur du système. Par la suite, ça a pris plusieurs autres noms, à tel point que j'oublie quel est le nom actuel. DRS étant resté longtemps et l'appellation est également une appellation très courte. Vous ne pouvez pas, dans le tissu politique algérien, organiser des élections libres si le tissu associatif, syndical, politique, donc y compris les partis, si l'organisation des élections reste sous l'égide du système. Or, ce système, ce qui permet le contrôle politique et social, aura toujours le dernier mot, notamment en matière électorale. Autrement dit, il faut, comme le disaient déjà d'autres avant moi, je pense évidemment à celui qui l'a dit le plus clairement et depuis longtemps, Aït Ahmed, il faut dissoudre la police politique. On l'appelle comme ça, c'est son mot, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de renseignements généraux, qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir de contrôler que tel n'est pas au service de l'étranger, que tel ne dilapide pas les ressources de l'association. C'est pas vrai, c'est pas ça. Il ne faut pas que l'organisme qui est l'œil, c'est-à-dire celui qui apporte le renseignement, voit, et l'aiguillon, celui qui incite à aller dans telle et telle direction dans le cadre du système, il ne faut pas que ces pouvoirs restent en place, que ce type de pouvoir reste en place. Vous ne pouvez pas organiser des élections. Il n'y a pas. Dans le monde entier, on ne peut pas citer un seul exemple d'élection libre sous l'égide d'un contrôle politique et social de la société, des gens, des associations. Et ça, on ne peut pas le faire en une semaine ou en 30 jours. Vous voyez, déjà, si, lorsqu'on dit le système dégage, alors même qu'on, je l'ai dit, on a revendiqué la dignité, on a revendiqué un espace de libération, vous voyez déjà qu'on a déjà un programme en direction de quelque chose de précis, puisqu'on envisage des élections libres, et que on ne peut pas organiser des élections libres s'il n'y a pas une libération de l'espace politique qui passe par une suppression du contrôle politique des associations et autres. Voilà. Quand on dit système dégage, on a en vue le fait que ce système a pris en main des organisations dites avant de masse et qui servaient comme des relais du parti unique et donc du commandement militaire, le parti unique ayant en Algérie, n'ayant jamais en Algérie exercé le pouvoir. Le parti unique est un instrument du commandement militaire. Déjà du temps de Boumdjian, Boumdjian n'a jamais voulu que le parti unique soit complètement organisé. Ça s'est arrêté à un certain niveau. Après, Chedli a essayé d'aller un peu plus loin, mais on sait ce qu'il en est advenu. la colonne vertébrale du système politique a toujours été le commandement militaire. Et j'ai déjà expliqué que il y a eu une évolution. En fait, en plus de la nécessité de libérer l'espace politique en supprimant les contrôles politiques pour que les associations fleurissent et soient libres et soient représentatives des aspirations des populations, cette représentativité est une condition essentielle d'un processus démocratique. Si vous avez des partis qui sont des coquilles vides, des associations qui passent leur temps à se bagarrer à organiser des bagarres entre les membres parce que l'espace politique est fermé, vous ne pouvez pas organiser une représentativité des citoyens avec leur diversité, avec une richesse de programmes multiples, parfois contradictoires. C'est donc ça, la progression vers un système démocratique passe par la fin du contrôle politique à partir du commandement militaire, passant par la sécurité militaire. Vous voyez donc. Maintenant, c'est vrai, le système a évolué. Et on va avoir des... On a déjà des conséquences de cette évolution du système. On a eu des conséquences de l'évolution du système une première fois à partir de 1988, lorsqu'on a mis en place, en supprimant le parti unique, ce que j'appelle une démocratie de façade. C'est-à-dire on organise plusieurs partis. Certains sont relativement autonomes, d'autres sont des créations artificielles, mais on garde le reste. Quelques associations vont essayer d'être libres dans des difficultés invraisemblables. D'autres seront carrément des doubles. Souvenez-vous, Ahmed crée par exemple un forum autonome. Immédiatement, un groupe de personnes, dont certains de mes collègues à la faculté de droit, crée un forum démocratique. Exacte réplique de ce forum, mais où le ministère de l'Intérieur est représenté. C'est fou. Eh bien, c'est comme ça. Vous créez une Ligue des droits de l'homme, on vous crée une autre Ligue des droits de l'homme, avec le même nom. Alors, vous n'allez qu'à chercher d'autres cycles, qui travaillera en liaison avec le ministère de l'Intérieur, encore une fois, ou avec carrément la présidence. Même Amnesty International. Quand Amnesty de Londres m'avait sollicité pour créer, pour engager des discussions avec des gens et créer Amnesty International, avant, il y a eu au barreau d'Alger des tentatives d'avocats pour créer Amnesty International en liaison avec la présidence de la République. C'est fou, c'est tout ce que je peux dire. C'est incroyable, mais c'est comme ça, une toupée extraordinaire. Évidemment, le projet a échoué parce que Amnesty International n'est pas né de la dernière pluie. Ils ont une longue pratique de ce genre de manipulation. Mais vous voyez jusqu'où ça peut aller. La manipulation. Le système, donc, je disais, a évolué. C'est d'abord la démocratie de façade. Alors, les slogans qu'on voit apparaître, les mots d'ordre du soulèvement, ne parlent pas trop de la démocratie de façade. Mais il faut bien prendre garde. C'est que dans les jours à venir, il est possible que ce soit d'actualité. Parce que le système en place est là, même si le chef de l'État est parti. Et si le système en place est là, et que le mouvement ne continue pas suffisamment, ou perd sa force, perd ses capacités de mobilisation, il y a de fortes chances pour qu'on aboutisse de nouveau à une démocratie de façade. La démocratie de façade, c'est reconnaître quelques espaces de libération, deux ou trois partis qui vont naviguer un peu, avoir quelques espaces, critiquer, quelques journalistes qui vont s'agiter, et puis, peu à peu, une fois que le mouvement s'est tassé, les choses reprendront leur cours, le système reste entier, le contrôle politique des organisations sociales reviendra en force, et au moindre problème social d'envergure, tout rentrera de nouveau sous la chape de plomb qui s'exerçait jusque-là. C'est ce qui s'est passé en 88. On peut même mettre un autre hamrouche et puis enlever l'autre hamrouche quand il faudra et revenir au système. Autrement dit, il faut bien avoir en vue que tant que les symboles du système, ses forces, ses représentants sont là, le système qui a son expérience, qui a sa durée avec lui, qui a ses capacités de manipulation et de gestion des foules, des gens, des groupes, a des capacités donc pour durer et tourner rapidement les concessions faites en démocratie de façade, c'est-à-dire une constitution dont le texte est de type démocratique. La constitution, les constitutions depuis 1989 sont de type démocratique. Elles parlent d'élections libres, de souveraineté populaire, séparation des pouvoirs, d'indépendance de la magistrature, de respect des droits, d'état de droit. C'est toutes les caractéristiques principales que nous souhaitons tous, qui sont comprises dans la Constitution. Ça reste une démocratie de façade parce qu'elles ne se traduisent pas dans les faits. Jamais en Algérie, sous cette constitution comme sous les autres, le pouvoir judiciaire n'a été indépendant. L'indépendance du pouvoir judiciaire exige non pas seulement un texte constitutionnel, bien sûr, il est nécessaire, mais aussi des lois, mais aussi des structures du pouvoir judiciaire qui dégagent le chef de l'État de là, qui dégagent le ministre de la Justice de cette organisation. Et qui, en plus, compte tenu de l'histoire du pouvoir judiciaire, de la corruption qui a pénétré dans le système judiciaire, dans le système des avocats, eh bien, il faut des cycles de formation, j'allais dire continue, menés par des gens qui savent ce que c'est les droits de l'homme et la séparation du pouvoir, pour que cela soit... Il faut... Moi, je suis contre les épurations. Mais il faut voir qui est qui dans ce monde judiciaire pour s'orienter de manière décidée, déterminée, vers un pouvoir judiciaire indépendant. La séparation du pouvoir exécutif et du pouvoir... C'est quelque chose qui a été prôné depuis maintenant des années, même avant la Constitution actuelle, depuis 1989. Ça n'a jamais été appliqué. Ce sont des coups de téléphone qui fabriquent souvent des décisions dans lesquelles sont impliqués des gens imbriqués dans le système. La deuxième évolution qui a eu lieu, qui est importante, qu'il faut avoir en vue, il faut que le mouvement l'ait en vue. Il l'a assez en vue, plus que les aspects démocratie de façade. C'est la pénétration du monde des affaires dans le fonctionnement du système politique et dans l'élaboration des décisions, voire des stratégies du système politique algérien. Cela, il est vrai, a commencé depuis un certain temps déjà. La corruption ne date pas de l'ère de Bouteflika, mais elle s'est amplifiée. Elle a pris des allures extraordinaires. Elle a submergé, d'une certaine manière, le système politique et son fonctionnement. Et dès lors, les intérêts économiques, financiers, qui découlent de cette pénétration du monde des affaires dans le système politique et dans les sphères de décision du système politique, donc inclus le commandement militaire, c'est pas seulement Bouteflika, eh bien, cette pénétration du monde des affaires, compte tenu du fait que les intérêts économiques du monde des affaires sont contradictoires, ont conduit au blocage du système. C'est pourquoi, d'emblée, quand le mouvement a commencé, j'ai dit « ce système est bloqué ». C'est pourquoi ce système n'a pas pu trouver un remplaçant, un continuateur au chef de l'État qui vient de démissionner. Pourquoi ? J'ai dit c'est la pièce maîtresse. Eh bien oui, si vous remplacez la pièce maîtresse, même si vous désignez cela entre vous, vos intérêts étant contradictoires, compte tenu la pénétration avérée du monde des affaires dans le système politique, eh bien, chacun veille à la protection de ses intérêts. Vous me proposez X comme futur chef de l'État. Moi, je n'ai pas confiance. Je vous propose Y. Parce que j'ai plus de relations avec lui et je sens qu'il peut mieux protéger mes intérêts. On sait, dans tous les systèmes autoritaires, les investissements, le développement du capital, la construction de fortune se fait toujours à l'ombre du pouvoir. Rien, si vous changez de pouvoir, si vous changez celui qui dirige, si vous changez la pièce maîtresse, comme je l'ai qualifié, pour le chef de l'État dans le système politique algérien, vous mettez en danger certains des intérêts construits à l'ombre du pouvoir ancien. Et dès lors, il veille. C'est une question vitale pour toute une série de forces au sein du système que le changement de la pièce maîtresse du système. Je préfère bloquer le système que de perdre mes fortunes. Et on arrive ainsi au blocage. Ce n'est pas qu'il ne voyait pas que le système s'est pourri, que c'est risqué de rester ainsi, mais c'est qu'il n'avait pas la vision nécessaire pour organiser des compromis entre eux en vue d'aller de l'avant et sauver l'essentiel. Parce que sauver l'essentiel, c'est avoir la capacité de perdre un certain nombre de choses maintenant pour pouvoir sauver l'essentiel après. Ils n'ont pas eu cette capacité. Il faut dire aussi qu'il en est ainsi parce que le capital en Algérie, c'est un capital d'affaires à courte vue. Ce n'est pas la bourgeoisie occidentale qui a construit un système libéral imbu de valeurs humanistes. Quelles valeurs humanistes? Quand je construisais Amnesty International Algérie, je demandais à quelques industriels, à l'époque qui ne faisaient pas du tout de politique, de voir s'ils peuvent donner quelques dinars. Jamais personne n'a donné un dinar. Ce n'est pas leur truc, les droits de l'homme. Donc, les pays démocratiques, où règne pourtant le capital comme fondement du système économique, Amnesty International reçoit énormément d'argent sans condition. Parce que c'est une des conditions d'Amnesty International de ne pas conditionner un don pour permettre la liberté d'utilisation par l'organisme qui en bénéficie. On n'a rien. Vous avez des ligues des droits de l'homme qui reçoivent de l'argent de la part de nos soi-disant industriels. Ce ne sont pas des industriels. Ce sont des constructeurs de fortune, à courte vue, comme je l'ai indiqué maintenant, qui veulent fructifier leurs biens, mais qui, dans le projet national, n'est pas si national que cela. De toute façon, ce n'est pas ce qu'on leur demande. Voilà donc. Donc, pourquoi on n'a pas trouvé une solution de rechange au blocage du système sous l'ère Bouteflika. Et même maintenant, une fois que le chef du apparent du système a été dégagé, vous voyez bien qu'il manque d'idées pour pouvoir avancer vers quelque chose qui traduirait l'écoute des manifestations. En disant « système dégage », c'est à tout cela que le soulèvement populaire veut mettre fin, ou tout au moins, parce que j'ai indiqué que ça ne se fait pas en un jour ni en trois mois, engager un processus de changement dans cette direction. C'est déjà beaucoup, hein? Oui. Mais je peux arrêter parce que l'essentiel a été dit, puisque je voulais surtout attaquer ces deux aspects du changement du système après tout le programme qui a été tracé. Peut-être un dernier mot sur le fait qu'on entend souvent aujourd'hui, oui, mais que faire? Alors, je fais une conférence à l'université de Tizi Ouzou, cette question revenait toujours, et quand je donne une réponse, le deuxième qui pose la question me la répond sous une autre forme. À Bjaïa, c'est encore la même chose, et ici, avec les journalistes, etc., c'est encore la même question. Alors, que faire? Tout ça, c'est à faire. Et c'est clair. Si on fait ça en un an, c'est immense. C'est donc vraiment cette question. Que faire au niveau du programme? Je pense vraiment qu'il faut bien voir que le mouvement, le soulèvement a dégagé un problème clair. J'ai dit que, évidemment, il faut, si les tenants du système actuel le souhaitent, qu'au niveau du mouvement, on commence à réfléchir à un peu plus de détails. Et que donc, ceux qui estiment pouvoir jouer un rôle, qu'ils soient intellectuels ou activistes, s'entourent d'équipes. On ne peut pas tout seul, comme ça, donner des réponses aux futurs interlocuteurs qui viendront nécessairement au niveau, à mon avis, du commandement militaire. Parce que c'est ça, la colonne vertébrale du système, surtout aujourd'hui que le chef de l'État a démissionné. Il reste à dire, le que faire vise aussi des noms. Jusqu'à maintenant, ma réponse, quand on me pose la première question, je dis, il faut se mobiliser. Il faut continuer la mobilisation. Et quand j'ai fini de répondre comme ça, je dis, ma deuxième réponse, il faut se mobiliser. Il faut continuer à se mobiliser. Et je pourrais continuer comme ça 10 fois. Aujourd'hui, même maintenant que le chef de l'État est parti, il faut continuer la mobilisation. Pourquoi? Parce que ce qui arrive, ces premières petites victoires, qui, si elles se réduisent à cela, déboucheront, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur une démocratie de façade, deuxième manière. Si ces petites victoires, elles viennent de la mobilisation. Je crois que c'est indéniable. Personne ne peut dire que Bouteflika a renoncé au cinquième mandat, au maintien du quatrième, et est arrivé à la démission sans ces manifestations. C'est donc ça qui a changé les données. C'est donc ça qui a donné un rapport de force qui permet d'aboutir à ces premières petites victoires. C'est des victoires, mais elles sont petites. J'ai expliqué pourquoi. Si on arrête le mouvement maintenant, il n'y a plus de rapport de force favorable pour continuer à lutter et obtenir ce qui est essentiel, beaucoup plus essentiel que le départ d'une ou deux personnes. Le changement du système, c'est lorsque, par exemple, il n'y aura plus de contrôle politique de la société. C'est-à-dire, on n'y est pas. Ça n'a rien à voir. C'est lorsque on ne choisit plus le chef de l'État, mais on l'élit librement. On ne choisit plus du côté du commandement, mais on l'élit librement. C'est une revendication essentielle. On n'y est pas, du tout. Vous ne pouvez pas organiser, je l'ai dit, des élections libres en 3 mois. Il faut un fichier électoral à signer. Il faut le publier. Il faut le contrôler. Comment vous le contrôlez? Parce qu'il est dans le bureau du ministère de l'Intérieur? Non. En ayant des gens. Non pas seulement une commission, mais en ayant des comités capables de suivre les boîtes, capables de publier, de répercuter les résultats d'une boîte qu'ils ont contrôlée, une boîte de scrutin. C'est difficile. L'administration, toujours, en Algérie, a joué un rôle dans le contrôle des élections et l'organisation des résultats. Vous ne pouvez pas réorienter l'action de l'administration en 3 mois. C'est pourquoi j'attire toujours l'attention sur la nécessité d'avoir une période de transition suffisamment longue qui permette de s'organiser en vue d'organiser un contrôle, en vue d'avoir la main sur... Si vous laissez Bedoui, ses hommes, ou le nouveau organisme de contrôle de politique de la société organiser les choses, vous aurez des résultats comme ceux que vous avez eus dans le passé. C'est cela qui fait que la force qui donne un rapport de force à ceux qui vont négocier avec le commandement militaire en vue d'organiser une transition qui soit une ouverture, un début d'ouverture vers un processus démocratique, il faut un peu de temps. Évidemment, il faut que ces gens, pour l'instant ça manque, à mon avis, il faut que les gens qui vont être amenés à négocier cette transition se préparent déjà. Ils n'ont pas besoin de claironner que c'est eux, que c'est eux, mais que chacun essaye de se préparer, non pas tout seul, mais en liaison avec les autres et avec ceux qui peuvent lui leur donner des idées sur la manière, les étapes, la stratégie, les tactiques, le contenu des propositions. C'est tout cela qu'il faut, qui revient maintenant. Et c'est une tâche un peu plus précise, un peu plus difficile à organiser, qui incombe au soulèvement populaire. Et c'est pourquoi, pour moi, il faut donc continuer la mobilisation en ayant en vue les étapes prochaines et on les prépare. Merci.
Merci. Merci beaucoup, monsieur Magic Lechet, pour cette analyse pertinente sur la situation politique, sur la situation générale du pays.
Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.